Hey, avant de démarrer ce nouvel épisode, il faut que je vous présente ma nouvelle application Sport Science Test. Saviez-vous que pour mesurer la puissance, les équations que nous utilisons obtiennent 2% d'écart de précision avec des plateformes de force ? Saviez-vous que l'algorithme de Sport Science Test permettait simplement en filmant le mouvement de savoir quels muscles étirer ou renforcer pour l'optimiser ? Que vous pouviez tester l'endurance de dizaines de joueurs à la fois sans jamais vous tromper ? Et ce n'est qu'un tout petit aperçu de ce que sait faire Sport Science Test pour seulement 99€ par an et de toute la science et la méthodologie que nous avons mise dedans avec les équipes ABD Digital. Alors n'attendez surtout pas pour la tester, car l'essai est gratuit. Bon épisode à tous.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode ABD Podcast. Aujourd'hui, je vous parle des préférences motrices. C'est nul! Mais ça existe. Dans cet épisode, on va vous apprendre en 4 points comment distinguer le grain de l'ivraie, qu'est-ce qui relève du fantasme et de la science, mais surtout, comment l'appliquer sur le terrain. Avant de démarrer, vous connaissez le principe, pour nous soutenir, abonnez-vous, partagez, commentez, c'est le meilleur moyen de nous revoir sur d'autres thématiques. Pour débunker les préférences motrices, j'ai fait venir mon pote Lilian Lacourpaille. Il est enseignant-chercheur à l'Université de Nantes, et spécialiste de la coordination musculaire. Salut Lilian.
Salut.
Il est spécialiste de biomécanique et plus particulièrement des coordinations motrices. Il a évidemment un avis assez clair sur le sujet. Merci de nous rejoindre. C'est la deuxième fois que tu viens, Lilian. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, eh ben, c'est le moment de vous mettre à jour. On avait parlé, d'ailleurs, je dis le premier, mais on en avait fait plusieurs ensemble. Allez les voir sur la chaîne. On a largement parlé de ce qu'étaient les préférences motrices dans notre perception. Mais aujourd'hui, on va aller encore plus loin parce que ce qu'on va essayer de vous transmettre aujourd'hui, c'est de manière assez simple, ce qui relève du fantasme et ce qui relève de la science et surtout comment appliquer ça sur le terrain. T'es prêt, Lilian ?
Ouais, je suis prêt.
Alors en fait, on a 4 points à voir avec vous aujourd'hui. 4 points. Le dernier, très concrètement, c'est le futur des préférences motrices. Et je vous le dis tout net, ce n'est pas de l'IA, ok ? Donc, restez avec nous, on va vous expliquer tout ça. Tout d'abord, est-ce qu'on peut, si on faisait une analogie avec l'écriture, Lilian, est-ce qu'on peut résumer la population mondiale à des droitiers et des gauchers ? Est-ce que c'est si manichéen que ça, cette histoire ?
Si on s'en réfère aux préférences motrices, on pourrait binariser les choses. Dire effectivement, dans les styles d'écriture, il y a des droitiers et il y a des gauchers. Mais évidemment, on le sait tous, ça va un peu plus loin que ça. Et au sein des droitiers et au sein des gauchers, y a une infinité de manières d'écrire. C'est pour ça qu'on est capable de reconnaître des individus à leur manière d'écrire. Donc, effectivement, ça va plus loin que ça.
Il y en a qui te prennent à contre-pied d'ailleurs, hein, qui sont ambidextres, qui changent de camp en cours de route. C'est toujours un petit peu plus complexe. Moi, c'est un peu ce qui me gêne avec tous ces courants qui simplifient un peu les choses, peut-être pour être embrassés de manière un petit peu plus large. J'ai énormément de mal à mettre les gens dans des cases. D'abord parce que j'ai du mal à les faire rentrer concrètement dans ces cases. Et ensuite parce que, étant un peu passionné de sciences complexes, j'expérimente quotidiennement que ce n'est pas si simple.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Dans le fond, c'est intéressant de dire que tous les individus ne se ressemblent pas et qu'effectivement, il faut adapter à leur manière de bouger notamment, mais en tout cas, rendre les choses si simples avec un peu des aériens et des terriens, c'est je pense réducteur par rapport à la complexité du mouvement.
Alors, c'est faire abstraction effectivement d'une part de la complexité du mouvement et d'une part de sa maîtrise qui est complètement liée à l'apprentissage, voire même à l'école dans laquelle on s'inscrit. Hein. J'en ai parlé assez régulièrement, notamment avec des spécialistes hein, comme Mathieu Touzla, qu'on salue. En disant, voilà, si on fait fi de tout ça, ben, on se retrouverait finalement, par exemple, en haltérophilie avec toute la nation chinoise qui serait terrienne. Et donc, du coup, on passe probablement à côté de sous-groupes, de sous-catégories et d'analyses un petit peu plus fines, tout simplement parce qu'on leur a appris à faire de l'haltéro comme ça depuis toujours, alors que nous, on nous apprend à sauter le plus haut possible, sauf que la charge nous contraint, évidemment. Donc, on serait beaucoup plus aérien qu'eux, de ce point de vue-là. Je trouve ça, évidemment, un petit peu binaire. Et là où on a de la finesse dans l'observation des préférences motrices et où, ça y est, on rentre dans la deuxième partie de l'affirmation du titre de ce podcast, c'est que c'est une réalité, c'est quand on vient observer ce qui se passe réellement au niveau des activations musculaires, et ça, c'est ton métier.
Ah ouais. Effectivement, le mouvement, il est issu d'un muscle qui va s'activer, et puis de part et d'autre, il est connecté aux os par des tendons. Quand le muscle se contracte, eh bien, ça génère du mouvement. Et en fait, en fonction des caractéristiques de chacun, anatomique, des propriétés musculaires, évidemment le volume du muscle, son architecture, etc. Bah, pour une activation donnée, bah, finalement, je n'ai pas la même force de produite. Donc, même si on avait une activation identique, commune à tous, bah, le résultat de sortie, ce ne serait pas le même parce qu'on n'a pas les mêmes insertions anatomiques, les mêmes distributions des volumes musculaires, etc. Donc, effectivement, étudier les activations musculaires, ça nous donne une information qui est intéressante, mais en aucun cas, c'est la force et ça peut expliquer le mouvement réalisé.
Alors, j'adore l'exemple que tu prends régulièrement quand on en parle et que tu m'expliques un peu les choses. C'est celui du Nordic Hamstring, qui est, est hyper intéressant parce que très, très facile à décoder et à observer. D'abord parce que, effectivement, c'est un muscle, c'est un exercice qui permet d'isoler un petit peu notre approche. Ensuite, parce que voilà, on voit la coordination des trois chefs des ischio-jambiers qui nous intéressent le plus dans cet exercice-là. On va vraiment se concentrer dans nos discussions sur les ischios, hein, c'est vraiment ce qui nous intéresse. Et ben, on voit leur activation, qui a évidemment des grandes tendances, tu vas nous rappeler dans une minute. Ouais. À partir de tel angle, on sait qu'on va activer plus ou moins le biceps, par exemple. Ouais. Ce qui est hyper important, de manière générale, de connaître ces principes fondamentaux, transversaux d'entraînement ou de rééducation. Hein. Quand on est kiné, il faut connaître ça, parce que sinon, on passe à côté du message et on risque d'entraîner les gens dans de mauvaises configurations. Mais après ça, on a des variations inter-individuelles qui sont hyper nombreuses.
Voilà. On est, d'un point de vue de l'activation musculaire, on est unique. Au même titre qu'on a... une empreinte digitale, eh bien, on a aussi une manière d'utiliser nos muscles qui est unique. Et ça, on l'a testé dans différentes conditions. On a testé en pédalage, en marche, dans des contractions sur des contractions sous-maximales très standardisées. Par électromyographie de surface, on a regardé comment chaque individu utilisait ses différents muscles dans ces tâches-là. On a fait ça sur un premier jour d'entraînement. On a fait passer environ 80 personnes. Un algorithme d'intelligence artificielle a reconnu les caractéristiques d'activation de chaque individu. Et puis ensuite, on a fait venir une seconde fois les participants pour qu'ils réalisent ces mêmes tâches. Et on a interrogé l'algorithme d'intelligence artificielle pour qu'il nous indique à qui appartenaient eh bien, les données de la deuxième session parmi les participants de la première session. Et dans plus de 99% des cas, il reconnaît les individus, ce qui veut dire que il y a des caractéristiques dans notre manière d'utiliser nos muscles lors de ces tâches motrices, faire du vélo, marcher, etc., qui nous rendent uniques. Donc effectivement, on a une manière qui est unique d'utiliser nos muscles.
Une vraie signature de coordination.
Une vraie signature de coordination, exactement.
Une vraie préférence motrice.
Une vraie préférence motrice.
Mais unique.
Voilà, exactement. C'est exactement
alors,
ça.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même des invariants, quand même des grandes tendances. Hein. On va les rappeler, même s'il y a un épisode qui est consacré à ça, hein, sur le Nordic Hamstring. Ce que tu as appris à nos auditeurs en venant ici, c'est que la plupart des gens qui font du Nordic Hamstring le font dans le vide, en fait. Ils s'arrêtent au moment où ils devraient commencer à travailler leur prévention du genou.
C'est ça. Souvent, on le fait, il est réalisé au poids du corps. Et souvent, au poids du corps, c'est un niveau de résistance qui est supérieur à son 1 RM si on veut travailler sur l'amplitude complète, une extension de genou complète.
Et, concrètement, il lâche tout dans la deuxième partie du mouvement.
Voilà, ils font 45 degrés, une extension de genou de 45 degrés, puis ensuite il y a un relâchement de la personne, et du coup on n'est plus sur une contraction excentrique, mais tout simplement un mouvement passif du muscle. Et donc ça perd tout son intérêt.
Et c'est dommage, parce que c'est dans cette deuxième phase du mouvement qu'on recrute le fameux
biceps fémoris, exactement.
Biceps fémoral, qui du coup est lui la vraie cible de ce travail préventif qu'on ne remet absolument pas en cause, hein, entendez-nous bien, faites du Nordic Hamstring, mais faites-le au juste contour de vos capacités. Donc ça veut dire se décharger, arrêter de croire que le poids du corps est en réalité zéro, voire une modalité facile d'entraînement. Sur certains groupes musculaires, ce n'est absolument pas le cas. Imaginez-vous travailler sur un leg curl, même si ce n'est pas tout à fait comparable en termes d'activation, c'est un petit peu un peu différent quand même, mais imaginez-vous immédiatement mettre sur la machine votre poids de corps. Donc moi, je fais 77 kilos. Ça ferait une sacrée charge en leg curl. On s'applique pas ça parce que quand même on en appuie sur les genoux, donc il faudrait enlever à peu près 30% de ça, mais même là on serait toujours à une cinquantaine de kilos. Évidemment, la plupart des gens travaillent plutôt à 20-25 kilos. Bon, ben voilà, vous savez un peu la tension d'élastique qu'il vous faut mettre pour décharger votre poids de corps sur un Nordic Hamstring et aller chercher ce biceps fémoral qui va être lui le vrai responsable de la prévention sur cet exercice-là.
Et là, pour le coup, c'est intéressant de rappeler que même si on a des préférences dans l'utilisation de nos muscles, il y a aussi il y a des grandes lignes qui s'appliquent à tous. Par exemple,
des invariants.
Effectivement, chez toutes les populations qu'on teste, que ce soit dans les études qu'on a pu mener ou bien dans d'autres études de la littérature, on observe qu'effectivement, pour tout le monde, quand on va sur la deuxième moitié du mouvement, donc on s'approche de l'extension complète du genou, eh bien on a une augmentation considérable de la contribution du biceps fémoris. Ça ne veut pas dire que c'est celui-ci qui est le plus activé dans le mouvement, ça veut dire qu'il est plus activé qu'au départ. Donc il y a tout intérêt pour tous les individus à aller sur une extension complète pour pouvoir augmenter sa contribution et augmenter le stimulus qui est appliqué à ce muscle.
Et en revanche, de manière individuelle, et pour être fin dans son approche de la rééducation, voire même de la performance, eh bien, il faut avoir conscience que tout le monde ne va pas activer dans les mêmes proportions et dans le même ordre les trois chefs. Et là, il nous manque un peu un myofeedback en fait, pour savoir ça. Comment tu fais pour entraîner ça?
Là, effectivement, aujourd'hui, c'est entre guillemets du doigt mouillé ou de la probabilité. On va se baser sur la littérature, on va dire que c'est un peu ce qu'on donne comme chiffre dans l'étude qu'on a publiée il y a quelques années. Quand je fais du nordique, il y a 70% des gens qui vont avoir la plus haute activation pour le semi-tendineux et puis 30% des gens pour le biceps fémoris. Donc, c'est de la probabilité si je fais le choix de cet exercice-là. Donc, le seul moyen d'avoir accès, c'est de faire de l'EMG de surface. Avec l'EMG de surface, on a...
J'en reviens au titre, excuse-moi de te couper, de notre épisode, c'est qu'effectivement, dans le cas numéro un où on n'est pas équipé de matériel pour évaluer, c'est le moment où on est dans la fantaisie, c'est le moment où on est dans la théorie, où on se dit que peut-être on va avoir de la chance. Ça, ce n'est pas de la science, ça, ce n'est pas de la rééducation, encore une fois, c'est des probas. Et elles sont quand même, d'abord, c'est jamais bon de faire des généralités. Mais en plus de ça, là, elles sont quand même pas, quand j'écoute les chiffres que tu me donnes, on a beaucoup de chance de ne pas avoir de chance, là, quand même.
Donc, oui, exactement, ouais. Et on verra la fin du podcast que ça a des répercussions qui sont assez fortes sur les adaptations qu'on vise.
Donc, on arrive au point numéro 2, point essentiel, c'est que l'EMG de surface est un game changer, à plus forte raison qu'il devient beaucoup plus accessible. Jusque-là, les kinés les mieux équipés, ceux qui travaillent souvent en clinique, une machine c'est peu ambulatoire, c'est assez lourde à manipuler, mais pour le moins ludique et qui te donne un retour assez précis. Sociétés comme Kinvent, on le sait maintenant, arrive très prochainement avec un capteur portable sur batterie qui permet d'aller courir si on en a envie. Donc là, ça y est, on est en train de faire tomber une barrière hyper importante. Il y a quand même des recommandations pratiques, c'est-à-dire que ce n'est pas non plus magique. C'est un outil qui vient faire passer encore une fois la subjectivité à l'objectivité. Mais attention, il faut s'informer, il faut rester à l'écoute parce que ça peut être aussi un faux ami si on se trompe.
Ouais, ouais, complètement. Il y a effectivement des bonnes pratiques à avoir. Il faut se former pour pouvoir utiliser ces outils dans les meilleures conditions. Parce que sinon, on peut leur faire un peu tout dire. Et si on les utilise un peu de la manière qui est recommandée, soit par les gens qui développent ces approches-là, soit par la littérature, eh bien, on est capable d'aller vraiment beaucoup plus loin dans notre pratique et les faire évoluer et surtout être capable de s'adapter aux patients, aux clients, aux sportifs qui est en face de nous.
Ouais, restez bien à l'écoute des comptes de Lilian. Hein. Je sais qu'il est très actif sur le sujet. Dans son labo, en plus, c'est vraiment une thématique centrale, le MG. Donc, c'est quelque chose avec lequel vous travaillez beaucoup avec tes collègues. Et je sais que vous avez dans le pipe des formations sur le sujet. Maintenant que ça se démocratise, ça va avoir du sens. En revanche, n'ayez pas peur d'essayer de vous jeter sur ces nouvelles technologies parce que c'est très, très, très simple d'accès. Hein. Ouais. Concrètement, c'est plug and play. Les applications sont devenues extrêmement simples à comprendre, à décoder. Ce qui est important, c'est de savoir comment placer les capteurs. Donc, réviser un petit peu l'anatomie, c'est toujours utile parce que effectivement, si je compare des poires et des patates et que je n'ai pas mis à droite et à gauche le capteur sur le même muscle, on risque d'avoir des soucis d'interprétation parce qu'effectivement, on cherche aussi des données normatives qui viennent avec l'expertise. Et là, c'est bien de prendre des raccourcis et d'aller voir des experts qui vont vous donner des repères en la matière. Mais sachez que c'est très, très simple à utiliser. Moi, j'ai fait toute la rééducation de mon mollet avec. Et c'est vrai que le mollet, c'est particulièrement facile à appréhender d'un point de vue EMG. Mais c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé pour vraiment isoler mon travail et avoir ce myofeedback. Hein. Pour ceux qui sont les moins acculturés à ces technologies-là, l'EMG, c'est vraiment l'incarnation visuelle de l'intensité d'activation que vous êtes capable de développer. Voilà. Donc évidemment, ça change absolument tout en rééducation, mais même en entraînement en réalité, puisqu'on l'a vu que les préférences motrices existent, et ben, d'une personne à l'autre, on va pouvoir comprendre mieux pourquoi il développe la force à tel angle de travail, avec telle vitesse sur un leg extension par exemple, pour un résultat similaire global à une autre personne qui a une stratégie totalement différente.
Complètement.
Et du coup, on est tenté de se dire en préparation, ok, j'ai compris ce que vous m'avez dit, très bien, il n'y a pas deux grandes catégories, ok, ce qui va me permettre de vraiment individualiser mon approche, c'est d'avoir un outil de lecture comme le MG de surface, mais alors du coup, je vais pouvoir faire de l'hypertrophie sélective et rééquilibrer de manière hyper efficace en fonction de ce que je veux faire.
Alors ça, c'est effectivement ce qu'on a longtemps cru. Est-ce que certains travaux, beaucoup de travaux de la littérature ont suggéré. On s'est dit de manière assez simpliste, le muscle le plus actif, le plus activé, c'est celui qui va bénéficier le plus d'adaptation. Sauf qu'en fait, on avait oublié des paramètres biomécaniques un peu incontournables qui régissent les lois qui sont appliquées au muscle. Quand un muscle s'active, il va s'activer à une certaine longueur musculaire. Et vous imaginez, hein, c'est un petit peu l'analogie qu'on fait avec un élastique. Entre un muscle, si on considère qu'un muscle peut être représenté par un élastique, activer ou tirer sur un élastique avec une tension élevée dans l'élastique ou tirer sur l'élastique avec une tension faible dans l'élastique, un élastique qui est raccourci, forcément, ça ne va pas représenter les mêmes contraintes au niveau de l'élastique. Plus j'active, plus je tire sur l'élastique alors que l'élastique est étiré, plus je vais avoir des contraintes élevées sur l'élastique. Et donc, c'est exactement la même chose pour le muscle. Il va y avoir des paramètres qui vont être importants et qui vont impacter les adaptations qui vont survenir après l'entraînement. Donc, l'activation, c'est une chose, mais seul, en tout cas, ça ne peut pas permettre de prédire quel muscle va bénéficier le plus d'adaptation.
Hyper clair.
On a fait deux études qui démontrent ça. Une première étude où on s'est intéressé, on s'est dit, un des indicateurs des contraintes imposées au muscle, c'est les courbatures qu'on induit dans le muscle. On a des approches qui nous permettent de comparer les différents muscles entre eux. Par exemple, on a fait du soulevé de terre jambes tendues et on a fait du leg curl. Et en fait, on se rend compte que entre les deux exercices, les courbatures ne sont pas réparties au même endroit. Par exemple, sur du leg curl, on a beaucoup plus de courbatures sur le semi-tendineux que sur les deux autres chefs. À l'inverse, quand on fait du soulevé de terre jambes tendues, on a beaucoup plus de courbature sur le seuil membraneux et sur le biceps fémoris. Et pourtant, quand on regarde l'activation, eh bien, l'activation n'est pas forcément orientée vers le semi-tendineux pour le curl ou vers le semi-membraneux ou le biceps fémoris pour le soulevé de terre jambes tendues. C'est-à-dire qu'il y a d'autres paramètres qui vont influencer cette distribution des courbatures. Et donc, ça veut dire qu'il faut aller plus loin. Et donc, ça, ce sera l'objectif de notre dernière partie du podcast. En revanche, il y a des choses quand même qui sont intéressantes, évidemment, et c'est ce qu'on a dit juste avant. L'EMG va nous fournir des informations qui sont très utiles. Par exemple, quand on compare les individus entre eux pour un même exercice, l'individu qui va le plus utiliser son semi-tendineux par rapport à un individu qui utilise très peu son semi-tendineux, on se rend compte qu'effectivement, la personne qui utilise beaucoup son semi-tendineux va avoir beaucoup plus de courbatures sur ce muscle-là par rapport à l'individu qui l'utilisait très peu.
Et comment ça se traduit dans les performances ?
Dans les performances, on n'a pas fait... tu veux dire, par exemple, les gains de force ?
Oui, est-ce que le fait que... alors, les gains de force, donc l'entraînabilité...
Ou les pertes de force ?
Ouais. L'entraînabilité et la perf absolue en force, est-ce que vous avez détecté des interconnexions dans les différentes stratégies d'activation ?
Alors, pour le moment, sur l'entraînement chronique, on va y revenir après, ça, on ne l'a pas encore fait. Par contre, ce qu'on identifie bien, alors on ne connaît pas, c'est toujours pareil, hein, c'est cause ou conséquence, mais ce qu'on observe, c'est que les individus qui utilisent le plus le semi-tendineux sont ceux qui ont le plus de chutes de force à 48 heures. Donc, cette stratégie-là d'activation, d'utiliser beaucoup son ST pendant l'exercice, bah, c'est une stratégie qui conduit à beaucoup de courbatures. Donc, on pourrait dire qu'il y a des stratégies qui vont favoriser la survenue des courbatures et d'autres moins. Ce qu'on aimerait faire, qu'on n'a pas encore fait, c'est de savoir si on répète l'exercice, si l'activation s'adapte de telle sorte à réduire la contribution du semi-tendineux, augmenter la contribution des autres pour réduire l'amplitude des dommages, pour un effet protecteur en fait. Mais ça, on ne sait pas encore.
Ouais, hyper intéressant. Là, on pense tout de suite, dans un premier temps, aux hyper spécialistes de force, dont la performance réside, à un moment donné, dans les détails, et qui, évidemment, les forces athlétistes, hein, en premier lieu. On peut se dire, bah là, c'est fantastique de s'entraîner quotidiennement avec un EMG pour voir comment ça évolue et pouvoir aller vraiment chercher des tout petits détails. Avec un rappel important mécanique, c'est qu'il n'y a pas de mauvais exercice dans la vie.
Exactement.
Et que quand on sait pourquoi on fait tel ou tel exercice, il faut pas juger. Évidemment, en fait, il n'y a pas de mauvais exercice, il n'y a que des mauvaises charges en réalité. Mais, il faut toujours aller chercher pourquoi les gens font tel ou tel exo et pourquoi ça les a amenés à un moment donné à penser qu'ils pouvaient progresser. Et quand on est face à des grands spécialistes de force, donc ultra fonctionnels, hein, des deadlifters, qui vous disent, bah justement, moi je continue à faire du leg curl en position allongée et du leg curl en position assise parce que je sens bien, et je ne sais pas trop pourquoi forcément, mais je sens bien que ça continue à me faire passer des caps. Bah, là, on a des pistes de pourquoi en fait.
Ouais, on a des pistes. Et ces pistes-là, elles sont encore plus renforcées là, par le dernier travail qu'on a réalisé avec un étudiant de thèse que j'encadre qui s'appelle Antoine Froin. En fait, dans cette étude-là, on a comparé. Déjà, l'amplitude de l'hypertrophie des ischio-jambiers entre un entraînement de 9 semaines à charge lourde et un entraînement de 9 semaines à charge légère avec du BFR. Et ce qu'on observe, c'est que un peu, enfin, en tout cas, c'était quelque chose de, c'était dans nos hypothèses, ça avait été montré sur d'autres groupes musculaires. Le volume global des ischio-jambiers, le gain en volume est identique entre les deux modalités d'entraînement. Que je fasse du lourd ou que je fasse du léger avec BFR, quand les charges d'entraînement sont matchées, j'ai les mêmes gains en termes d'hypertrophie. Donc ça, ça on le savait depuis longtemps. En revanche, ce qu'on ne savait pas, c'est que la distribution de l'hypertrophie au sein des ischio-jambiers diffère entre les deux modalités d'entraînement. De manière assez brève, entre quand je fais de la charge lourde ce qu'on montre, c'est qu'il y a 8 participants sur 11 qui ont plus d'hypertrophie sur le semi-tendineux par rapport aux autres chefs, sachant qu'on a fait du stiff leg deadlift et du nordique et du leg curl, pardon, donc un exo de hanche et un exo de genou, comme on retrouve classiquement un peu dans les procédés d'entraînement.
Ouais.
Donc 8 sur 11 semi-tendineux, et puis 3 sur 11 semi-membraneux vont plus hypertrophier le semi-membraneux, et aucun individu n'hypertrophie plus le biceps fémoris quand je fais de la charge lourde. À l'inverse, à charge légère avec BFR, j'ai des adaptations qui sont plus homogènes entre les chefs des ischio-jambiers. J'ai 5 sur 13 qui hypertrophie plus le semi-membraneux, 5 sur 13 plus le semi-tendineux, et puis 3 sur 13 qui hypertrophie plus le biceps fémoris. Et ça, ça n'a jamais été montré. C'est vraiment la première fois qu'on montre qu'il y a une influence du niveau de résistance sur la distribution des adaptations au sein d'un groupe musculaire.
Hyper intéressant. On vous mettra les références de ces études, hein, évidemment, en commentaire. Et on vous invite à réagir dessus. N'hésitez pas à poser vos questions à Lilian. Il est suffisamment passionné pour prendre le temps de discuter avec vous là-dessus, évidemment. Car, tu parlais de BFR. Hein, je vais juste décoder 3 secondes parce que tout le monde n'a pas forcément les repères. Hein. Blood flow restriction, c'est de l'entraînement qu'on appelle en français, on n'utilise pas trop les termes français, c'est l'entraînement par occlusion. Concrètement, je vais appliquer un garrot sur un des membres. En règle générale, c'est les bras ou les jambes. Je ne sais pas si tu as déjà fait des études en les mettant autour du cou. Tu passes sur un travail central, mais c'est plus dangereux.
Ah, je n'ai jamais fait ça, ouais.
Alors, évidemment, ne pas reproduire chez soi, c'est pour rire. Donc, on les met sur les bras ou sur les jambes. Et l'idée étant, évidemment, par restriction du flux sanguin dans le membre en question, pouvoir travailler sur des niveaux d'intensité très élevés avec des charges mécaniques beaucoup plus légères. Donc, ça nous vient évidemment de la rééducation post-opératoire ou post-blessure où les gens sont en décharge mécanique majeure et doivent maintenir un niveau d'entretien de la force ou de l'hypertrophie avec des charges mécaniques très, très modérées. Donc, évidemment, on s'est très vite dit, mais du coup, on peut utiliser ça comme un processus d'entraînement pour venir choquer un peu une programmation un peu linéaire. Et ça fonctionne, ça marche, c'est hyper intéressant. Moi, je travaille avec le MADUP, je ne sais pas si tu connais cette techno.
Je connais très très bien le fondateur d'Eli Saou, qui est collaborateur et ami.
Eh ben voilà, ben, tu vois, on a encore un pote en commun, ça ne m'étonne pas. Et en même temps, c'est un mec qui n'est pas loin de chez toi, effectivement, puisque
c'est vrai.
Il est Angers, ouais, tout à fait. Et la grande, on va prendre 2 secondes pour parler de MADUP, parce qu'il y a une grande limite sur le blood flow qui est encore assez balbutiement, hein, même si moi je travaille avec ça. J'ai recroisé le jour à l'isokinétique à Londres Ben Ashworth, le kiné avec qui je travaillais, l'ancien kiné d'Arsenal avec qui je travaillais aux équipes britanniques à l'époque. On utilisait ça au tout début 2009, tu vois. Donc ça fait vraiment un moment qu'on joue avec ça et avec les limites. Je me suis fait très mal, moi, en BFR, en chargeant trop. Et c'est la limite de tout tester sur soi, c'est que de temps en temps, on trouve la limite. Et en fait, on ne voit pas qu'on charge trop parce qu'on ne maîtrise pas que le blood flow ne va pas être constant en fonction de l'angle et de la contraction musculaire, évidemment. C'est, avec le recul, c'est logique. Et donc, si je fais très simplement un biceps curl et que j'ai un tout petit peu trop serré mon garrot au départ, mais que ça va, je suis en laisse dans la première partie du mouvement, à mesure que mon énorme biceps va se contracter, je vais augmenter la pression, le garrot. Et c'est là que ça commence à vraiment être pro. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de travailler avec une technologie comme le MADUP qui régule la pression appliquée en fonction de l'angle et justement de la contre-pression qu'on va appliquer sur le garrot, le muscle. Alors, c'est pour ça que moi, je travaille avec ça parce que c'est aujourd'hui, c'est à ma connaissance, le seul qui permet ce genre de choses.
Ouais, c'est aussi pour cette raison-là qu'on a effectivement choisi MADUP. Ouais.
Je ne suis pas surpris. Alors, si je tout résume, et à moins que tu aies encore quelque chose à dire sur ces 3 premiers points, hein, d'abord, la motricité n'est pas si manichéenne. On voit qu'on n'a pas 2 grandes catégories et que finalement, on a des centaines et des milliers de cas de figure individuels. Vous êtes tous uniques, les amis. Deuxièmement, le MG, c'est le game changer. Il vous faut un feedback, il vous faut une couche d'objectivité sur la subjectivité pour prendre des bonnes décisions. Et ça, ça prend. Et puis troisièmement, l'hypertrophie, attention à pas poursuivre le miroir aux alouettes, l'hypertrophie sélective reste complexe, il va falloir rester branché un petit peu sur les avancées en la matière, et ça tombe bien, on a des sommités mondiales du côté de Nantes. quatrième point, eh ben, c'est quoi le futur? Je te pose la question très directement, Lilian, puisqu'on a, on a teasé tout l'épisode là-dessus, c'est le moment. Le futur des préférences motrices, qu'est-ce que c'est si ce n'est pas de l'intelligence artificielle? C'est quoi?
Alors, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, effectivement, c'est de l'intelligence tout court.
J'adore.
Non, c'est qu'effectivement, alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on soumet, on dépose le brevet dans quelques jours. Mais l'idée,
ce qui est sur YouTube, reste sur YouTube, je te promets que personne ne dira rien.
Mais l'idée, c'est effectivement de proposer une approche en fait, qui va considérer, ou en tout cas tout ou en partie, des contraintes qui sont appliquées sur le muscle. On a parlé notamment de l'activation musculaire, bah ça en fait partie. Bon, l'idée, c'est de proposer en fait un textile qui soit capable d'estimer les contraintes qu'on applique au muscle pendant qu'on est en train de réaliser un exercice de renforcement. Ce que j'ai dit juste avant, c'était le troisième point. Effectivement, l'hypertrophie, elle est pas, l'hypertrophie sélective n'est pas si simple. Et on a oublié de mentionner un point, c'est que je vous ai dit, il y a deux groupes, les charges lourdes, les charges légères. On se rend compte que ça oriente un peu l'hypertrophie. Mais un truc qui est hyper important et qui est complètement en adéquation avec le titre de ce podcast, c'est que au sein même de chaque groupe, on va avoir des différences interindividuelles qui vont être très grandes. Par exemple, un résultat qui, moi, m'a énormément marqué, c'est qu'il y a des individus qui se sont entraînés pendant 9 semaines à charge lourde, par exemple, et qui vont avoir 40% d'hypertrophie à la fin du programme, sauf que c'est 40% exclusivement sur le semi-tendineux, et les deux autres chefs n'ont aucune hypertrophie, ont aucun gain de masse musculaire.
Waouh !
Et on a d'autres sujets qui ont une hypertrophie qui est très équilibrée entre les trois chefs. Et à l'inverse, on va avoir une hypertrophie qui va être très grande sur le semi-membraneux et très peu sur les autres chefs.
Nous rappelle, s'il y avait besoin de le faire encore à ce stade de l'épisode, à quel point il est dangereux de faire des généralités.
Exactement. Et donc, pour pouvoir être plus précis dans les contenus d'entraînement et pouvoir finalement être capable de prédire pour son patient, pour son sportif, pour son client, quelles vont être les adaptations dont il va pouvoir bénéficier ou où elles vont être localisées et mieux les maîtriser, eh bien, il nous faut des outils qui nous permettent en séance d'entraînement, d'évaluer ce qui est en train de se passer et surtout d'évaluer les changements qui vont apparaître au fur et à mesure du temps parce que, évidemment, que l'athlète va s'adapter à chacune des séances auxquelles il va être exposé.
Donc, hyper intéressant. Bon, tu viens de lâcher une grosse info quand même sur l'avenir sur l'avenir des préférences motrices. Ça veut dire que il faut qu'on reste un petit peu à l'écoute dans les prochaines semaines. Alors, à quelle échéance on peut espérer ces innovations sur le terrain?
Pour le moment, donc je suis accompagné par Deli Saou et Kevin Katekamara qui vont être les trois fondateurs de cette startup. Et donc l'idée, c'est que on ait un premier prototype probablement dans 6-8 mois. On aura un prototype qui sera capable d'estimer ses contraintes musculaires, une première version. On bénéficie d'un programme de maturation de la Société d'accélération de transfert de technologie de West Valorisation. Et ce programme prend fin dans un peu moins de 2 ans. Donc normalement, dans un petit peu moins de 2 ans, on peut avoir quelque chose qui serait commercialisable.
Bon les gars, il y a intérêt à ce que je sois un des premiers à tester quand même.
Avec plaisir, c'est sûr que tu seras dans les premiers.
Encore un épisode hyper intense, je vais nous résumer à ce stade, il n'est jamais bon de faire des généralités, catégoriser les gens en 2 équipes est forcément réducteur. L'EMG est le game changer, formez-vous, informez-vous, équipez-vous et testez sur vous, l'outil de terrain s'appelle K-Mayo. L'hypertrophie sélective est complexe, Lilian va partager avec vous tous ses travaux les plus récents en la matière. Grosse innovation à venir, c'est le quatrième point. Dans le futur, c'est une sacrée info. Si vous voulez plus de Lilian, c'est sur LinkedIn que ça se passe. Il partage sans compter. Vous me suivez et me retrouvez sur tous les réseaux que vous connaissez ou presque, Insta, LinkedIn et TikTok. Merci de votre fidélité et à très bientôt.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.